Cocktail culture.
Ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Je suis collé au siège.
Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. Un cocktail.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
Cocktail culture, la mixologie des arts.
Radio Campus Paris.
Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale d'une heure dédiée à l'atelier radiophonique organisé par Radio Campus Paris. Je suis Justine et je me permets de présenter toute l'équipe en commençant par mon co-animateur Alexandre.
Bonjour.
Les intervenants Envy.
Bonjour.
Ilias.
Salut.
Manon.
Bonjour.
Et enfin Gabriella à la régie. Bonjour tout le monde et bonjour aux auditeurs.
Oui, effectivement. Bonjour à tout le monde et plus particulièrement au Crous de Paris qui nous a permis de réaliser cette émission spéciale. Nous proposons un programme qui met en avant la culture sous toutes ses formes, musicales, artistiques et poétiques. Donc, sans plus tarder, voici le sommaire.
Nous commencerons notre émission par notre fameux micro-trottoir qui nous enverra sur la Lune, pour ensuite nous détendre avec un extrait du concert très intimiste de Cyprien Ensai.
Et nous terminerons avec son interview exclusive, tous ensemble pendant une heure sur Radio Campus.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
Nous sommes descendus dans la rue pour demander l'avis des passants sur la Lune. Est-ce que vous aimeriez vivre sur la Lune, vous? Et toi, Manon, est-ce que tu es dans la Lune?
Oui, totalement. Je choisis d'ailleurs de passer la parole aux Parisiens du 5e. Vous écoutez à présent quelques brefs extraits d'un micro-trottoir réalisé par Justine, Leandro, Gabriella et nous-mêmes. Les Parisiens sont-ils lunaires?
Tout d'abord, donc, on a découvert que deux personnes allaient sur la Lune en 2018. Et on voudrait savoir si vous en avez l'opportunité, ça vous intéresserait?
Bah, ça dépend à quel prix, oui. Non, puis de toute façon, je pense que je suis trop vieux, j'aurais pas la capacité physique de supporter tout ça.
I think no, because so long and you feeling sick. I think it's expensive. It's not a thing that attract me. I am a realist person, so I
take a new perspectives the world and the universe.
Oui, pourquoi pas. Je suis pas très aventureux, mais pourquoi pas.
Et avec qui du coup vous aimeriez partir?
Ma famille.
Avec ma femme et mes enfants. Pas être tout seul.
Avec ma femme.
Avec un ami ou mon frère, quelqu'un de proche.
Et ça vous ferait pas peur de partir sur la Lune?
Non, not at all. If I have a way to come back, so I won't be afraid.
Alors, moins peur que de partir tout seul parce que je suis pas sûr de pouvoir revenir. Donc,
je pense que j'aurais un peu peur. Puis c'est long. Non, vraiment, rien de m'attire là-dedans. Non.
Ça serait bizarre, je pense, même d'être en apesanteur. Mais non, ça serait cool, je pense.
Il y a quelque chose qui vous manquerait sur Terre?
Oui, les paysages.
Un astronaute? Non, de l'air.
Of course, everything. The food, make pee, the people, everybody. I love the life and the earth. Yeah.
Faire du sport, le parcours, des choses comme ça, on pourrait pas trop le faire.
Comment vous imagineriez la Lune?
C'est un peu désertique, la Lune. J'ai une vision de la Lune qui est retransmise par les images qu'on en a, mais voilà, je n'imagine pas très différemment des images qui ont été diffusées.
Juste, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre là-bas, c'est tout.
J'imagine que ça doit être vraiment bizarre même dormir. Apparemment, quand tu dors, tu fais des rêves très bizarres parce que tu es en apesanteur, tu touches nulle part en fait. Donc j'imagine que ça doit être, si tu es seul, tu dois vraiment te sentir seul. Parce que, et puis si quelque chose arrive, ben, y a personne, quoi. C'est ça que je pense, c'est ça l'aspect qui fait peur. Mais je pense que je me sentirais bizarre, mais bah, impressionné, très impressionné.
Alors attends. Il y avait un petit truc que j'aimais bien faire quand je suis devant un mic là. C'était quoi déjà? Hey yo, sway, sway, in the morning, catch your podcast up. Yeah.
Okay. Donc en 2018, il y a deux personnes qui vont voyager autour de la Lune. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je trouve ça juste génial. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est un truc de ouf. Enfin, pouvoir voyager sur la Lune, moi je kifferais pouvoir me caler sur la Lune avec quelqu'un, une petite nana posée comme ça, pouvoir voir la Terre de loin, ce serait génial.
Je trouve que c'est pas une nécessité première de voyager autour de la Lune.
Tu aimerais faire ce type de voyage?
Mais moi j'y suis déjà dans la Lune au quotidien, donc j'ai pas besoin de monter jusque là-haut.
C'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'enfant. Je suis un fils de la Lune en fait.
Donc tu partirais avec qui?
Avec ma maman.
Donc tu voudrais vraiment apporter toute la famille à la Lune.
Tu veux partir sur la Lune avec moi ou pas?
Bah,
on s'organise, t'inquiète, on s'organise.
Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'espace?
Le vide. Le vide, ça me terrorise. Le vide et probablement cette nuit sans fin.
En vrai, si c'était possible et si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Parce que j'aurais trop peur.
Comment tu imagines l'endroit là-bas?
C'est paisible, quoi, avec pas trop de gens. Je sais pas, construire son propre bungalow et... Et voilà quoi.
Des beaux décors, des beaux paysages et tout noir, je pense. Genre vraiment noir.
L'immensité de l'espace autour de moi et les petites étoiles et tout, c'est une vision d'enfer ça, c'est génial.
C'est gris, on voit les étoiles partout et puis on saute comme ça.
Et c'est vrai qu'en plus, normalement sur la Lune, si je fais des bonds, je pourrais faire des bonds genre super lentement aussi. Je pense que ça peut être vachement fun. Il fait vachement nuit. Et le sol est blanc avec des trous.
Donc ça doit être genre très propre parce que. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui y sont allés.
Tu ferais quoi sur la Lune?
Et je crierais le plus fort possible pour voir jusqu'où ma voix.
Je passerais beaucoup de temps à regarder les étoiles.
J'ouvrirais un kebab. Le kebab lunaire.
C'est pas mal la Terre finalement.
Musique, cinéma, littérature, théâtre, cocktail culture, la mixologie des arts.
Kubrick mes couilles.
93.9
Radio Campus Paris.
Vous venez d'écouter deux extraits d'un micro-trottoir inspiré par le départ de deux touristes terriens sur la Lune. Merci encore à la directrice du Centre culturel du Crous, Katia, de bien avoir voulu nous répondre.
Merci Andy et Manon. Nous allons désormais ouvrir le débat sur la Lune. Est-ce que vous êtes surpris des réponses des Parisiens?
Non, pas du tout. C'était marrant quand même, non?
Clairement. Et vous préféreriez vivre sur Mars ou sur la Lune?
Sur Terre.
Ok.
Non, moi sur Mars. Moi, je le dis honnêtement parce que, en fait, la composition de Mars est plus proche de la Terre que la Lune de Mars, de la Terre. Du coup, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de vivre sur Mars que sur la Lune. C'est pour ça qu'il y a un certain Elon Musk qui prévoit en 2024 de coloniser la Mars. Tout simplement. Voilà.
Ah, moi, ce serait la Lune. Hein. J'adore la Lune. Comme Amel Ben, je veux viser la Lune.
Moi aussi, je dirais la Lune. Je préfère les étoiles quand même.
Ok. Et qu'est-ce que vous apporteriez sur la Lune ou dans l'espace?
La Wi-Fi. Je pense que c'est indispensable. Je pense que maintenant, à l'heure où on vit, on ne peut pas se passer de Wi-Fi, hein, clairement. Alors, je pense que quand on envisagera de coloniser ne serait-ce que la Lune ou Mars, on installera des routeurs là-bas. C'est pratiquement indispensable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Moi, je ramènerai de la pastèque.
Et des fleurs.
Et du chocolat.
Le chocolat.
Un grand pique-nique.
Ok, donc merci tout le monde pour votre imagination culinaire.
Ah, j'ai vu un très beau film de Jodorowsky qui s'appelle « Poesia sin fine ». Qui parle de sa vie, Alexandro Jodorowsky, qui est aussi un metteur en scène et un écrivain. Cela dit, je le regrette infiniment, je n'ai pas le temps d'aller beaucoup au cinéma, mais j'étais content de voir ce film. Très heureux.
Cocktail culture. Cocktail culture.
Maintenant, on écoute MC Solar, Sentinelle Nord et Childish Gambino, Redbone.
Yeah.
Golf, dans le golf du Bengal entre l'Inde et la Birmanie, l'océan est indien, le lieu est interdit, nous sommes 169 dans l'île au trésor, que l'on appelle et nomme Sentinelle Nord. C'est grâce à cet îlot que j'ai survécu, laissez-vous aller, Claude MC n'a pas bu. Dangerous comme Michael, Battle Jackson, droit comme Janet et sa Rhythm Nation. Sans pratiquer la fleur d'Indonésie, ils sont plus libres que des comptoirs de Pondichéry. Donc en discothèque on tape des mains et bouge son corps pour le funky de Sentinelle Nord. Je marche et cause pour une cause si funky. Danse pour les fils des pygmées d'Océanie qui peuplent l'une des îles de l'archipel d'Adamant. Donc bouge ou achète un protège-dent. Danse pour les tribus badouis, pour qu'elles dansent la transe à Java d'Indonésie. Seul sol et son art saluent ce sol où on enterre les talents, ceci est parabole. Note que la mort qui bloque l'ethnologue et que l'orque suffoque à l'esprit de la Hamlock de choc. Encore un apport du quartier nord pour l'Asie, l'Afrique, les amis et Sentinelle Nord. Dans le delta oriental du Bengale, loin de la sécheresse qui stresse l'Inde centrale, la technique domotique des discothèques est faite de bois de tech et l'alliance est parfaite. Au fait, sache que l'anthropologue y est reçu comme un SS dans une synagogue. S'il apporte des cadeaux et de l'or, il pousse alligato puis le jette aux alligators. C'est leur retour d'esprit qui me marque, il fuit un système digne de Jurassic Park. Fort Claude MC en technicolor, laisse Jimmy Jazz scratcher pour Sentinelle Nord. Pour Sentinelle Nord.
C'était MC Solar, Sentinelle Nord et Childish Gambino, Whitebone. Et maintenant, on retrouve Angie et Manon pour la suite.
Merci Justine. Laissez-vous
transporté à présent par les tonalités musicales de Cyprian Enzaï, guitariste classique, enregistré lors d'un concert au Centre culturel du Crous au mois de mars. Thank you.
Là, pendant votre concert, vous avez mélangé plusieurs genres différents. Vous avez surtout joué de la musique plutôt classique. Vous avez également joué des morceaux plus avec des tonalités espagnoles, on va dire, un peu de bossa nova presque vers la fin. Et également Alléluia, qui est plus une chanson de la musique populaire. Quel est le genre que vous préférez jouer ?
Ah ben moi, sans aucun doute, c'est le classique. Après, il y a apprécié une musique pour toute la complexité, son côté sophistiqué qui la rend sublime. Et il y a apprécié sa musique pour la simple mélodie qu'elle peut avoir. C'est vrai qu'Alléluia, par exemple, c'est une mélodie que j'aime bien jouer. Mais le classique, ça reste pour moi un cran au-dessus, en fait.
Est-ce que vous composez ?
Je me dis pas compositeur. Parfois, j'improvise un peu sur ma guitare. Je fais 2-3 accords, des mélodies au milieu. Quand j'ai un thème qui me vient, je le note. Mais j'en suis pas encore à composer. En fait, composer, c'est mettre en système, mettre en relation des thèmes ou des sons. Et j'en suis pas encore là. J'en suis encore aux petits thèmes par-ci, par-là, mais qui ont pas de relation entre eux. Donc non, je compose pas. Pas encore. Mais ça viendra, j'espère. C'est sûr, en fait. Petit à petit.
Tu t'appelles Cyprien Ansai.
Mmh. Ouais.
Du coup, tu as sûrement quelques origines. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce qu'elle t'influence dans ta musique, dans la musique que tu crées tous les jours ?
Alors, mes origines, c'est africaine, en fait. Ansai, c'est Mtsai. Donc, c'est africain. Après, est-ce que ça a un impact sur moi, non. Peut-être que j'ai remarqué chez beaucoup d'Africains, notamment dans ma famille, ce côté très chaleureux, très vivant, en fait, mais qu'on trouvera dans le sud plutôt qu'à Paris, par exemple. Hein, ça, la géographie comme ça, des pays peuvent influencer les caractères. Mais non, je pense pas qu'à part ce côté vivant, ce côté vouloir partager avec les autres, vienne particulièrement de mon origine, je pense pas.
Tu as commencé dès le plus jeune âge ? Est-ce que c'était une vocation ou...
Alors, j'ai commencé la guitare vers 8 ans, en fait. Donc, c'est pas forcément le plus jeune âge, en fait. Hein. C'est une moyenne. Par contre, j'ai commencé tôt à faire des concours, en fait. Dès mes 10 ans, je faisais mon premier concours. Donc. Oui, alors, est-ce que c'est une vocation ? J'ai voulu le faire. Mon père ensuite m'y a contraint, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais fait le choix, je devais continuer jusqu'à mes 17 ans, il se trouve. Et j'ai beaucoup pleuré, beaucoup râlé, parce qu'il y avait une quantité de travail qui pour moi était hallucinante à l'époque. J'étais très vite à 1 heure par jour, en fait. Donc très rigoureux au conservatoire, tout ça. C'est devenu une vraie vocation à partir du moment où j'ai fait mon premier stage de guitare, où j'ai rencontré d'autres guitaristes, passé toutes mes journées avec eux. Le jour, on bossait comme des malades, plus qu'on l'avait jamais bossé. Et le soir, on s'amusait comme pas possible dans les chambres des uns et des autres. Et ça, c'était un merveilleux souvenir, centré autour de la guitare et du travail, d'une quantité de travail que j'aurais toujours fui avant. Avant ça, en fait. Et à partir de là, je suis devenu... je voulais devenir guitariste. À peu près 12 ans, quoi. À 12 ans.
Où tu as acheté ta première guitare ?
Ah, ma première guitare. Alors, en fait, j'ai commencé avec une guitare qu'on m'a offerte. C'est-à-dire, à mes 8 ans, il me semble, mon père, pour mon anniversaire, m'a offert cette guitare, parce qu'il savait que je voulais en jouer. Et voilà. Après, au bout de 4 ans, j'étais passé sur une autre guitare. Donc, la guitare de mon père, puisqu'il se trouve, c'est un guitariste aussi. Qui était une très belle guitare de concert, donc voilà, avec des résonances beaucoup plus puissantes et beaucoup plus belles, plein d'harmonie. En fait, le son est fait d'harmonie, et quand il y a beaucoup d'harmonie, ben ça fait une certaine beauté du son, une belle rondeur. Donc j'ai commencé à jouer dessus. Après, la première guitare que j'ai achetée moi-même, c'est celle-là sur laquelle je joue. Ça fait pas longtemps, je l'ai eu en septembre. Et voilà, j'ai économisé suffisamment pour pouvoir l'acheter. Il se trouve que j'avais gagné un concours dans le sud de la France aussi, à Carry-le-Rouet. Un concours international qui offrait une guitare de très bonne qualité. Et en la vendant, j'ai pu acheter l'autre, en fait.
Et de vulgariser la musique classique, pourquoi pour vous c'est important ?
C'est-à-dire que le classique, il plaît à à beaucoup de gens, c'est vrai déjà. Surtout, il y a plein de pièces, en fait, de classiques qui peuvent plaire à un grand public. Mais c'est bien aussi de passer un peu par le divertissement. C'est-à-dire que la musique, la musique classique, c'est une musique qu'on écoute, tandis que nous, on a pris l'habitude d'entendre la musique. C'est en fond sonore, en fait. Et donc, pour écouter la musique, ça demande une énergie de concentration qui est importante. Et donc, voilà, j'en demande pas trop à mon public. Je fais une pièce que déjà, j'essaye de guider leur écoute. Et après, entre les pièces, oui, il faut un peu lâcher, faire des choses simples qui vont plaire, qui vont aussi faire que le public sera content et va peut-être revenir. Voilà, donc c'est une partie de divertissement au milieu de l'instruction, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a apporté en plus de voyager grâce à la musique que vous jouez ?
Mon premier voyage que j'ai fait grâce à la musique, en dehors de la France, c'était au Brésil, avec un ami à moi qui faisait des concerts là-bas et que je suivais. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ben, au Brésil, c'est évident que j'ai ressenti une chaleur humaine et aussi j'ai été dans la musique brésilienne à certains moments qui font que quand je joue par exemple des pièces comme Felicidade de Jobim, je me retrouve dedans et je pense que j'ai un bon feeling avec certaines musiques comme ça grâce à mes voyages. Après, j'ai voyagé donc dans d'autres pays, notamment au Japon, où qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ben, en fait, voir d'autres musiciens nous apporte quelque chose où que ce soit. Mais il y a quand même des caractéristiques selon le pays, selon l'école en fait, plutôt que le pays, c'est selon l'école de guitare. Alors ça m'a apporté des tas de trucs de rencontrer des écoles différentes, par opposition ou par envie de faire pareil que certaines écoles. J'ai à chaque fois pu m'améliorer comme ça, donc, par ces rencontres, ces découvertes d'autres écoles de guitare.
Quels sont vos objectifs pour les prochaines années en tant que musicien ?
Alors, mon objectif à moi, c'est de faire, d'avoir une bonne période dans ma vie de concertiste où je fais que des concerts, en donnant des cours par-ci par-là lors de masterclass. Ça, c'est mon objectif d'être concertiste pendant, je sais pas, une dizaine d'années, hein, une bonne période comme ça. Pour y arriver, il y a plusieurs chemins, mais notamment un chemin qui est important, c'est de gagner des concours internationaux. Donc voilà, qui nous donne l'opportunité de nous produire sur scène, de nous faire connaître. Et il y a aussi, de toute façon, il faut chercher des concerts. Donc il y a gagner des concours, c'est pas le seul moyen. Il faut aussi avoir cette initiative d'aller vers les organisateurs. Donc voilà, ça, c'est ce que je prévois pour les 2-3 années qui arrivent, c'est de faire tout ce travail-là de concours et de recherche de concerts. Et puis après, je cherche à trouver un poste de professeur de guitare en conservatoire qui soit voilà, qui me permette d'être stable quelque part, mais en même temps gardant les concerts à l'étranger. Donc voilà, en restant concertiste et professeur de guitare en même temps.
Et vous gagnez déjà votre vie
Oui, je gagne déjà ma vie. Par contre, je continue mes études en même temps. Donc ce sont deux fonctions à temps plein, étudiant et prof de guitare ou concertiste à mon niveau, c'est-à-dire à quelques concerts par mois, un ou deux. Donc ce sont deux fonctions à temps plein qu'il faut faire attention d'aller au bout de ces choses-là, alors en tout cas au bout de mes études déjà. Donc oui, je gagne ma vie, mais je me retiens de ne pas en trop en faire pour finir correctement mes études.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
une sonate. Alors pour ceux qui ne connaissent pas spécialement ce genre, c'est en fait un cycle de trois pièces qu'on a fini par appeler mouvement. Et la plupart du temps, c'est un mouvement rapide suivi d'un mouvement lent et d'un dernier mouvement rapide. Et la plupart du temps, le premier est un peu joyeux, en fait, joueur. Le deuxième est triste ou mélancolique. Ici, ce sera plutôt mélancolique, nostalgique. Et le dernier, en général, furioso. Il se trouve que la sonate que je vais jouer, qui est la sonate Hommage à Boccherini, écrite par Tedesco, il se trouve qu'elle a quatre mouvements. Il y en a un d'entre eux que je ne vais pas jouer, mais que vous trouverez dans le CD, ceux qui ont déjà le CD, ou à la fin du concert, vous pourrez l'acheter. Donc, voilà. Donc, je vais vous jouer cette sonate, qui est une succession de trois pièces, donc, ce qui veut dire pas d'applaudissements au milieu. En fait, de manière générale, si vous avez des doutes en concert classique, il faut attendre que le chef d'orchestre ou que le musicien regarde le public. Comme ça, vous saurez. Sauf s'il y en a qui regardent pendant qu'ils jouent, mais ça, c'est...
C'était Cyprien Ensaï sur Radio Campus Paris 93.9 à l'occasion d'un spectacle au Centre culturel du Crous en mars dernier. Retrouvez toutes les informations et la programmation du centre sur www.culture-crous.paris.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
Et dès à présent, nous allons parler du festival Horizon Nécessaire, un festival qui se déroule en juin, c'est ça, non ?
C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai rencontré Émilie et Laura, donc deux étudiantes du collectif Scénoscope, qui ont répondu à mes questions.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre projet ?
Oui, alors on est Laura, enfin je suis Laura et Émilie est avec moi. On fait partie de l'association Equipart, une association donc de Paris 3 qui est constituée par les étudiants du Master Pro Métier de la Production Théâtrale. Et donc cette association crée cette année un événement qui s'appelle Horizon Nécessaire Festival Scénoscope 11. Donc c'est le 11e festival Scénoscope qu'on a appelé Horizon Nécessaire. C'est un festival sur l'urbain, la ville de demain et comment on envisage de vivre dans le futur et comment on organisera la ville. Et c'est un festival qui est pluridisciplinaire, gratuit, dans lequel il y aura des artistes aussi bien du théâtre, de la danse, de la musique et des expositions et des ateliers pour englober toutes ces propositions artistiques.
D'où est née l'idée ?
Eh bien, en fait, ça a été... je pense, pour moi, plutôt une espèce de va-et-vient en fait d'idées avec l'autre master en fait théâtre en création avec lequel on travaille. Donc eux avaient vraiment cette envie de travailler autour des questions de l'urbain, du vivre ensemble. Et on a eu une réunion et on a vu qu'on se retrouvait vraiment au niveau de ces envies-là. Donc c'est là que on s'est dit que vraiment ça allait être le thème en fait de notre festival et qu'on allait axer toute notre programmation autour de ces questions-là.
Alors voilà, c'était la présentation du festival Horizon Nécessaire, festival gratuit fait par des étudiants qui va avoir lieu le 17 et 18 juin à la Cité Internationale de Paris. Le festival est organisé par le collectif Scénoscope, qui est un groupe d'étudiantes en production théâtrale de la Sorbonne. C'est un festival qui propose le thème de la ville de demain de manière utopique, au sein de la cité universitaire qui est une petite ville au cœur du 14e arrondissement de Paris. La cité universitaire a été créée après la Seconde Guerre mondiale dans le but d'imaginer une petite ville où les étudiants du monde entier vivraient en harmonie, en paix, liés entre eux par l'amour de la culture, la motivation du progrès et par l'érudisme. C'est donc dans ce lieu magique qu'est la cité universitaire que les participants du festival Horizon Nécessaire vont à leur tour imaginer la ville idéale, quelques jours après la semaine du développement durable. Ce projet met en avant le travail d'une centaine d'étudiants, artistes de toutes sortes, et contribue à la diffusion de la culture au sein de notre jeune génération. C'est aussi la politique de Radio Campus, donc on les encourage à faire de leur mieux, et on vous a dit tous à aller assister à cet ingénieux festival qui sera la source d'inspiration et profitable à tous.
Merci beaucoup Elias.
Ok, merci.
Eh bien, il est temps de rendre l'antenne. Je tiens à remercier les intervenants Andy, Ilias et Manon, mon co-animateur Alex, Gabi à la régie, ainsi que Radio Campus de nous avoir prêté leurs locaux.
Quant à moi, je voudrais saluer bien évidemment le Crous de Paris et tout particulièrement Katia et le directeur Monsieur Lambert. Mélanie, qui fut notre tutrice tout au long de notre préparation et qui est une personne exceptionnelle. Et bien entendu, vous, très chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt sur Campus Radio Campus. On vous dit bien. Non, alors. Et on vous dit à très bientôt sur Radio Campus.
Sur le campus de la cité.
Voilà.
Faut le refaire.
Cocktail culture.
Ça se passe à notre époque. De nos jours sur Terre.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Je suis collé au ciel.
Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche.
Un cocktail.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cocktail culture.
Cinéma.
Musique.
Littérature.
Théâtre.
Sur Radio Campus Paris.
Avec le Centre culturel du Crous de Paris.
Cocktail culture, la mixologie des arts.
Radio Campus Paris.
On était nuls. Non, mais vraiment.